science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus 93.3 dans l'émission Science Alors, l'émission consacrée aux sciences sous toutes ses formes, aux sciences dures comme aux sciences humaines. Et ce soir, nous allons parler de science et de cinéma.
Voyager à travers le temps, partir à la conquête de Jupiter, rétrécir des humains, s'immiscer dans leur esprit pour en prendre le contrôle, redonner vie à des espèces disparues, autant de scénarios paraissant tous plus improbables les uns que les autres. Oui, mais pas au cinéma, où tout ou presque est permis. Certains réalisateurs choisissent même de collaborer avec des scientifiques pour donner plus de vraisemblance à leurs films. Kubrick, par exemple, s'est entouré de chercheurs de la NASA pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Steven Spielberg, lui, a travaillé avec des paléontologues pour Jurassic Park. Le résultat est parfois bien éloigné des conseils préconisés par les scientifiques. Et c'est ainsi que les tyrannosaures de Jurassic Park se sont retrouvés affublés de crocs acérés. Et oui, le compromis entre science et divertissement n'est pas toujours aisé. À l'opposition, on trouve un tout autre genre, le film scientifique. La démarche est ici très différente. Le film n'est plus que le support, le but étant la science. Ainsi, dès le début du XXe siècle, Jean Commandon, médecin et biologiste, réalise les premiers films à partir d'images de microscope. Il filme ainsi microbes, circulation sanguine ou encore mouvement du cœur. Le cinéma devient naturellement un outil au service des scientifiques. Et comme le dit Commandon, les amants de la nature, les savants, sont des contemplatifs. Ils ont conservé l'habitude de penser par images plus que par mots. Aussi, quel précieux avantage ils trouvent de s'exprimer par des images animées. Ces images animées sont également l'occasion de toucher le grand public et de communiquer les découvertes scientifiques. Par exemple, les premiers films montrant des microbes ont permis une grande avancée de la société sur l'éducation à l'hygiène. Encore aujourd'hui, le cinéma reste un support apprécié pour parler de science, si l'on en croit le nombre croissant de festivals consacrés à ce genre. Le couple science et cinéma n'est pas encore prêt de s'éteindre.
Et alors ce soir, autour du plateau, pour discuter avec nous pendant une heure d'émission, on accueille Caroline Lardy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu es maître de conférence à l'université Blaise Pascal en études cinématographiques. Et puis, tu t'intéresses en particulier à l'anthropologie sociale et au cinéma documentaire.
Oui, tout à fait.
Et puis, on accueille également Yann Gérard. Bonsoir, Yann.
Bonsoir.
Alors, tu es aussi maître de conférence, à l'Université d'Auvergne. Et ta spécialité, c'est plus proche des mathématiques et de l'informatique théorique.
Moi, ouais, c'est ça.
Alors, c'est parti pour une heure d'émission.
Science alors ! Éprouvettes et velours côtelés.
Et alors, on va commencer cette émission par une question presque futile. Est-ce que chacun d'entre vous, le cinéma a aiguisé votre curiosité? Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez commun pour pas mal de monde. Le cinéma, c'est une porte ouverte sur le monde. Est-ce que ça a participé de votre énergie et de votre gourmandise de recherche? Yann, tu veux peut-être commencer?
Oui, je vais commencer. La gourmandise de recherche, en fait, moi, disons que ça a été indirect, parce que ça a participé à mon goût pour la recherche à travers un goût pour la technologie, et puis aussi à travers des personnages un peu qui me semblaient intéressants, qui étaient des scientifiques représentés au cinéma, souvent avec des cheveux un peu dans tous les sens. Et ça c'est un truc qui m'intriguait beaucoup, et du coup, peut-être que ça m'a poussé un peu dans cette voie.
Tu voulais être dans Retour vers le futur, alors?
Voilà, ouais, le doc.
Et c'est réussi, tu penses?
J'ai encore des progrès pour les cheveux à faire, mais on est sur la voie.
Le côté rock'n'roll, oui.
Ouais,
quoi.
Ouais. Les cheveux sont pas tout à fait assez blancs, mais ça devrait pas trop tarder.
Et toi, Caroline, cette même question
Alors, pour ma part, l'attrait pour le cinéma a surtout été motivé par l'envie de devenir praticienne et réalisatrice, en l'occurrence, de documentaires, mais au service, justement, de l'observation et l'analyse des activités humaines dans le champ du documentaire, plus précisément.
Donc, pour toi, il y a un lien fort entre cette question de sciences humaines et puis le cinéma.
Oui, oui, tout à fait.
Tu le vis au quotidien, en fait.
Je le vis au quotidien en disant que ça fait partie de mon questionnement, enfin d'un questionnement plus général sur à quoi sert l'anthropologie visuelle, l'anthropologie sociale et culturelle, en l'occurrence.
Très bien, on va tout de suite écouter le point de vue d'un astrophysicien et écouter quel est son rapport à lui au cinéma.
Vous aimez bien parler des films de science-fiction et de leur vérité, en quelque sorte, scientifique.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait... Les gens sont pas dupes, ils savent bien que la, comme vous dites, vérité scientifique des films de science-fiction est faible ou nulle. Simplement, ce que je constate moi, c'est que d'abord, il y a un certain engouement pour ces films, ils sont connus du grand public. Et deuxièmement, c'est que même si la science qu'ils présentent est pas toujours très juste, elle permet quand même de prendre prétexte de ces films pour parler de science, justement, pour non pas critiquer ces films pour leur distribuer des bons et des mauvais points au prétexte qu'ils traitent ou mal, ils traitent bien ou mal la science, mais surtout pour essayer de faire une enquête sur ce que l'on voit dans ces films, essayer de se dire comment pourrais-je faire la même chose mais de façon plus rigoureuse, et quelle information sur le film nous donne ce que l'on y voit.
En fait, vous prenez le cinéma comme support. Parce que c'est quelque chose d'assez populaire finalement, et puis vous essayez vraiment de montrer la démarche scientifique, le travail des chercheurs au quotidien. Finalement.
Exactement, le démarche des chercheurs, enfin le cerveau scientifique, je veux dire, en action, devant un problème mal posé. Le problème mal posé, si on vous donne un DVD de Star Wars, on vous pose une question, quelle est la taille de l'étoile de la mort? Et voilà, vous avez une heure et vous revenez. Donc les étudiants ne sont pas du tout habitués, les étudiants et le grand public évidemment, mais c'est aussi les étudiants, c'est une démarche qui concerne aussi les étudiants, que ce soit de lycéens ou d'étudiants universitaires, ne sont pas du tout habitués à cette démarche finalement. Ils la pratiquent assez peu et donc je trouve ça intéressant parce que ça leur permet de voir que finalement avec des connaissances scientifiques, même disons rudimentaires, ou même celles dont qu'ils ont sous la main, qu'ils jugent éventuellement rudimentaires, on peut quand même faire des choses qui se rapprochent du point de vue de la méthodologie, du point de vue de la pratique, de ce que font les chercheurs dans leur laboratoire.
Nous avons poursuivi la discussion en abordant l'intérêt de la science-fiction, en quoi la science-fiction est intéressante pour la recherche et pour la société.
La science-fiction, pour moi, là où elle est vraiment intéressante, c'est qu'elle met la science en scène et qu'elle essaie d'en tirer des conséquences sociales, des effets sociaux. Si le clonage humain est possible et objet de commerce, c'est quoi le monde dans lequel on vit ? Par exemple, si je prends un exemple dans la biologie. Donc voilà, la science-fiction, moi, ça me paraît intéressant comme un laboratoire de réflexion, une expérience de pensée sur le réel social et scientifique et technique. Donc comment science et technique influencent, transforment les sociétés, les civilisations humaines. Voilà, et c'est ça que la science-fiction fait, à mon avis, très bien, qu'elle est la seule à le faire. Il n'y a pas d'autres genres qui font ça, qui intègrent la science, les sciences et les techniques à ce point dans l'intrigue, si vous voulez, dans les histoires, et surtout qui en envisage les conséquences sociales. Et c'est en ce sens-là qu'elle est intéressante. Donc moi, je peux regarder une œuvre de fiction, plutôt lire, parce que je fais plutôt lire des œuvres de science-fiction que les voir au cinéma, parce qu'au cinéma, c'est vrai qu'il y a un aspect esthétique et divertissant qui peut des fois l'emporter. Hein. Si on regarde Star Wars, le message social, il est quand même assez faible, on va dire. Mais si vous pensez à Bienvenue à Gattaca, si vous pensez à Blade Runner, si vous pensez à 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, des grands films de science-fiction aussi au cinéma, voilà, ce sont des films qui posent des questions sociales, humaines, en plus de mettre en scène de la science. Donc voilà, moi, la science-fiction, pour moi, c'est ça. C'est un outil d'expérimentation sur le réel, mais d'expérimentation en pensée, un peu comme en science. Existe en science les expériences de pensée, comme ont pu faire Galilée, comme ont pu faire Newton, Einstein, puis d'autres encore, bien sûr, enfin, pour citer que les plus grands. Donc voilà, la science-fiction, moi, je peux tout à fait en regarder et en lire, en débranchant, comme on dit, mon module de réflexion scientifique, mon module qui me dit, ah oui, non, ça marche pas pour telle et telle raison, tout simplement parce que je ne regarde pas ou je ne lis pas de la science-fiction pour lire de la science.
Alors pour finir, j'ai posé une dernière question à Roland Lehoucq. Je lui ai demandé de nous donner quelques conseils cinéma. Alors vous allez voir, c'est très science-fiction.
Alors je dirais 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est quand même... Enfin bon, pour la partie début, hein, après la fin, c'est autre chose. mais il y a des éléments scientifiques très pertinents dans 2001 de l'espace. Avatar, il y a des choses pas mal. Enfin, le film est pas bon, enfin, au sens que le scénario me plaît pas du tout, mais il y a des éléments de science concrète, si je veux dire, qui sont plutôt bien faits. Il y a d'autres choses qui sont vraiment fantaisistes, hein, évidemment. Mais c'est ça aussi la science-fiction, c'est, ils cherchent pas à faire un documentaire. Mais je dirais Avatar, oui, il est pas mal, finalement. 2001, très bien. Blade Runner, c'est pas des éléments concrets scientifiques, mais c'est des éléments de questionnement philosophique sur les sciences qui sont, enfin, c'est juste hein, le top du top, quoi. C'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, finalement. Et Bienvenue à Gattaca.
Et puis, il m'a donné aussi d'autres conseils que vous pouvez retrouver, que vous pourrez retrouver sur le site internet, des vieux films, notamment de science-fiction, et puis tout ce que nous n'avons pas écouté ici et qui a été abordé lors de l'interview. Alors, est-ce que vous aussi, vous intéressez à la science-fiction? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez être parfois gêné par la science qui n'est pas exacte, ou des choses comme ça, Yann?
Moi, je ne suis pas du tout gêné. Je suis un lecteur et spectateur de science-fiction, donc dans la littérature et au cinéma. Et c'est vrai que j'ai un peu le même sentiment. À certains moments, j'étais tenté d'en écrire un petit peu. Donc, c'est vraiment on part d'une hypothèse. Voilà, il y a telle technologie dans le monde, et puis on regarde ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est une expérience de pensée qui est très tentante quand on a envie de travailler avec son imagination. Mais en tout cas, dans l'écriture, c'est quelque chose dont on m'a un petit peu dissuadé. Un jour, j'ai un agent littéraire qui m'a dit « Moi, je prends tout, sauf les gens qui écrivent de la science-fiction et la poésie. » Donc la science-fiction, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour en écrire, mais en fait, il y a très peu d'élus. Aujourd'hui, c'est un genre qui tombe un petit peu en désuétude.
Pour compléter ce que tu viens de dire, il faut préciser que tu es donc auteur d'un roman et tu es en train d'écrire ton deuxième roman.
Oui, voilà, c'est ça.
D'un excellent roman, tu veux dire.
donc pas de science-fiction, donc.
Non, mais il y a du fantastique. Dans ce roman, il y a aussi une hypothèse. L'hypothèse de départ, c'est « et si les nombres avaient un pouvoir ésotérique qui permet de faire des choses mystérieuses et fantastiques ?»
Et alors, si on parle de fiction maintenant, est-ce que vous, Caroline Lardy, il y a eu des films de fiction qui vous ont semblé être des miroirs, des représentations intéressantes de problématiques anthropologiques?
Ah oui, la plupart des films de fiction peuvent être sujets justement à des interprétations d'ordre anthropologique. Aujourd'hui encore, je projetais à mes étudiants un extrait de L'île nue de Kaneto Shindo. Et justement, je leur demandais d'adopter une grille de lecture anthropologique pour justement essayer d'analyser cet extrait de film. Donc on peut regarder énormément de films avec une grille de lecture effectivement anthropologique. Alors plein de films, je dirais que ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce serait par exemple des cinémas, le cinéma japonais, le cinéma indien par exemple, le cinéma africain. Notamment en ce moment, je travaille aussi avec les étudiants autour du cinéma africain subsaharien, au cinéma maghrébin, autour des questions d'identité, la tradition, la modernité, des rapports aussi entre les générations, donc avec des films de fiction essentiellement, pour essayer de comprendre comment dans ces sociétés on met en scène en fait ces questions du quotidien aussi.
Et là, on a évoqué la science-fiction à l'instant, on a compris que c'était une manière d'explorer des choses qui n'existent pas encore en sciences dures. Est-ce qu'il y a l'équivalent en sciences humaines, un média, un cinéma ou un art qui explorerait des notions qui sont encore à découvrir, en quelque sorte?
Je dirais que dans les sciences humaines, on n'a aucune certitude, véritablement. On est même dans le champ du documentaire ou de l'anthropologie visuelle. On est toujours dans une posture de doute ou d'interrogation sur ce qu'on est en train de filmer. Alors, on n'est pas du tout dans le domaine de la science-fiction, en l'occurrence, mais on a sans cesse des interrogations. Alors, parfois, je dirais qu'il y a des films qui sont aux frontières de l'expérimental, du documentaire, qui peuvent justement s'intéresser à ces problématiques. Et puis, on a aussi, effectivement, oui, dans le champ des docu-fictions aussi, hein, des films qui interrogent justement ces frontières entre documentaire et fiction et qui peuvent aussi aller au-delà de questions parfois métaphysiques aussi.
Et alors, j'aurais une question qui s'adresse à tous les deux. Si on parle de fiction ou de science-fiction, quelle est la spécificité du cinéma par rapport à d'autres formes artistiques comme la littérature est-ce que le cinéma est plus à même de montrer des choses et d'intéresser en fait les scientifiques que vous êtes ?
Là, en l'occurrence, oui, effectivement, le cinéma, c'est le médium idéal pour pouvoir mettre en image, représenter, en fait, ce que la littérature ne peut pas représenter aussi en image ou mettre en image. Mais après, avec les limites que ça comporte aussi.
Moi, en fait, il y a des choses qui sont dans la littérature de science-fiction et que j'attends encore au cinéma, notamment les ouvrages d'Asimov, donc essentiellement Fondation, où on a vraiment une super hypothèse de départ avec la psychohistoire et j'attends de voir ce que ça pourrait donner au cinéma. Donc je trouve que le cinéma me semble un petit peu plus limité que la littérature à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est aussi un média qui est complètement différent parce que on représente pas les mêmes choses. Si vous faites une description trop longue dans un bouquin, bah, à la longue, c'est un peu rébarbatif. Alors qu'au cinéma, il y a des effets visuels qui sont vraiment captivants et que vous pouvez pas rendre à l'écrit. Donc, c'est vraiment complètement différent. Il y a un avantage à chacun.
Et puis, peut-être, il me semble que tu projettes à tes étudiants un film qui est en fait de la vulgarisation, qui utilise le fait qu'on voit des choses en trois dimensions pour expliquer. Est-ce que dans des domaines, par exemple, comme les mathématiques, c'est pratique, utile?
Ah, c'est très très pratique. Donc le film en question, c'est un film sur les maillages qui part de l'histoire des polyèdres, donc qui sont des objets mathématiques élémentaires, géométriques, et qui remonte à l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui dans les jeux vidéo, dans la simulation, voilà. Et pour les étudiants, c'est vraiment quelque chose de super parce que ça leur donne des images. C'est beaucoup plus rapide à assimiler qu'un long cours au tableau où il faudrait, une vingtaine d'heures au minimum pour montrer ce qui est fait ici en une heure. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus rapide.
On va peut-être passer tout de suite à l'énigme. Alors ce mois-ci, c'est pas une énigme mathématique. C'est Cécile qui s'est chargée de nous préparer une énigme historique.
C'était quelle année déjà ?
Alors voilà, mon énigme historique, c'est cette année-là. Il s'agit de découvrir une année. Voilà, donc j'ai fait un petit montage à partir d'archives et de musique. Donc je vous conseille de prendre un petit papier, un petit crayon et d'essayer de retrouver les événements ou les musiques dont il s'agit. Et si vous avez trouver l'année, n'hésitez pas à appeler donc le numéro de Radio Campus, le 04 73 90 52 61. Voilà, donc 04 73 90 52 61. Et le gagnant donc gagnera, on a dit,
je crois.
Voilà, donc une bière dans un débit de boisson au Clermontois ouvert le lundi soir. Donc on peut se retrouver rue des Georges en face de Radio Campus à 20h. On écoute.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters are самоотверженной борьбе против гнета капитала за победу исторического дела рабочего класса социализма.
Cher camarade, ami, les communistes de l'Union soviétique et tout le peuple soviétique partagent sincèrement votre grand chagrin. La famille fraternelle des communistes et les travailleurs du monde entier ont perdu, en la personne de notre cher Maurice Thorez, une éminente personnalité du mouvement ouvrier communiste français et international, un révolutionnaire passionné, un combattant inébranlable de la cause des travailleurs.
I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States.
J'accepte le prix Nobel de la paix en un moment où 22 millions de Noirs des États-Unis sont engagés dans une bataille constructive pour mettre fin à la nuit de l'injustice raciale. J'accepte cet honneur avec la conviction que le mouvement pour les droits civiques, qui qui avance avec détermination établira le règne de la justice et les règles de la liberté.
Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing.
Le clair entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les
rayés, l'alarme, s'il fallait reprendre des armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à appeler. Bien sûr, Caroline Lardy, Yann Girard, vous pouvez vous aussi jouer. Donc, on vous donne la réponse dans quelques minutes.
Alors, on poursuit cette discussion, la discussion qu'on avait juste avant. Et je vous rappelle, le thème de cette émission, c'est science et cinéma. On avait commencé à évoquer l'idée que le cinéma, ça pouvait être le support pour diffuser, pour communiquer de l'information auprès des étudiants, par exemple, en quelque sorte une vulgarisation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous pour que le cinéma soit au service de la science ? Caroline, est-ce que, tu vois, par exemple, tu utilises le cinéma concrètement pour tes travaux ?
Oui, là en l'occurrence, le cinéma est au cœur de ma recherche. Donc la recherche dans le champ de l'anthropologie visuelle consiste justement à utiliser le cinéma comme un instrument d'observation, d'exploration, mais aussi un support donc de réflexion et d'analyse des données collectées, mais aussi d'interprétation et d'illustration de ces données. Donc c'est vraiment en fait le cœur de la recherche, et c'est un support qui permet aussi de s'interroger sur, pas simplement sur le contenu des activités qui sont filmées, que ce soit des activités d'ordre rituel, corporel, matériel, religieuse par exemple ou pas, mais c'est aussi un support qui permet de questionner en fait comment mettre en scène ces activités et à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut les mettre en scène. Donc c'est pas simplement utiliser le film comme un outil de, comment dire, un support de réflexion ou d'illustration, mais aussi d'interroger le support lui-même, l'outil en fait.
Et alors justement, puisque vous êtes derrière la caméra et puis ensuite vous observez les films, vous analysez les films que vous avez faits, est-ce qu'il y a une part de surprise quand on observe?
Bien sûr, la surprise est toujours très grande, puisqu'il y a toujours un grand décalage entre ce qu'on observe à l'œil nu, donc une observation qui serait non outillée, et l'observation en fait cinématographique que l'on examine quand on consulte les images. Et là, on découvre en fait énormément d'informations. Donc, il faut effectivement hiérarchiser et puis réussir en fait à analyser. Alors, ce qu'on fait la plupart du temps, enfin la méthodologie d'observation qu'on utilise, c'est d'abord de procéder à une sorte d'observation préalable qui permettrait d'anticiper en fait l'observation filmique pour après filmer au mieux, pour le mettre en scène en fait ces activités qu'on a au préalable observées.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple donc de film que vous avez réalisé au service de votre étude?
Oui, tout à fait. Alors je pourrais prendre appui par exemple sur certains de mes films de recherche que j'ai fait dans le cadre d'une étude sur la vie quotidienne dans un monastère, sur la vie religieuse en l'occurrence, où j'ai observé mon hypothèse de départ, c'était d'observer les activités religieuses et non religieuses dans un monastère, dans un carmel. Et c'était d'essayer de montrer en fait les différences qu'il y a entre les activités religieuses et non religieuses. Et en menant ces différentes observations filmiques, je me suis rendu compte que dans la façon de travailler, de se comporter, les religieuses finalement mélangeaient finalement le religieux et le non religieux, et qu'on avait du religieux quasiment dans toutes les activités. En tout cas, on pouvait en voir des indices à l'aide d'une description filmique très approfondie.
Et est-ce que ça permet pas aussi de s'interroger sur la manière dont l'opérateur, donc la personne qui filme, travail. Est-ce que justement, on ne va pas voir à travers la réalisation, donc le film, une partie de ce qu'est la personne et comment elle a interprété la scène? Et est-ce que c'est difficile d'avoir une objectivité là-dessus?
Oui, tout à fait, puisqu'on est toujours influencé par le regard ou des choix qu'on va opérer au moment où on enclenche la caméra. Donc on va sélectionner un certain nombre de choses et mettre de côté d'autres éléments. Mais l'avantage, c'est que si on essaie d'être de tendre vers une certaine objectivité, on va multiplier, par exemple, et varier les angles et les cadrages, et multiplier les tournages pour essayer d'avoir un point de vue, en quelque sorte, qui soit le plus objectif possible sur l'activité, tout en la mettant en valeur.
Par exemple, quand vous filmez, du coup, la personne que vous allez filmer dans son activité, ça va sans doute modifier son activité en elle-même, juste par le biais de la caméra. Comment est-ce que vous contrecarrez cet effet?
Alors, je ne sais pas de le contrecarrer. J'essaie de prendre en considération le fait que ma présence puisse éventuellement perturber la personne filmée. Alors, une des stratégies, par exemple, c'est d'habituer la personne à votre présence. Et puis, au fil des observations, la personne finit par oublier la place de la caméra, la présence de la caméra. Mais c'est un leurre de penser que tout se déroule comme si vous n'étiez pas présente, alors que vous l'êtes malgré tout. Donc, c'est une variable qu'il faut prendre en considération. Et je ne suis jamais dans une posture où j'imagine que tout ce que je filme se produit exactement comme si je n'étais pas présente.
C'est amusant parce qu'on peut faire l'analogie avec ce qui se passe en physique où on dit toujours que dès lors qu'on observe, on modifie ce qu'on est en train d'observer. Il y a vraiment un parallèle fort entre
aussi,
les deux.
Hein. Bien sûr, il y a une modification des comportements des personnes filmées. Alors elle est plus ou moins ostensible, hein, mais elle est présente malgré tout.
Donc oui, il y a un parallèle du coup, c'est assez amusant. Écoutez, je vous propose d'écouter l'interview que j'ai faite de Jérôme Ters. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit de diffuser cette interview? Sans doute, vous avez suivi l'actualité clermontoise et vous avez remarqué que c'était le Festival international du court-métrage il y a peu et que le thème cette année, c'était Particules imaginaires. Particules imaginaires, qu'est-ce que c'est? Je vais laisser Jérôme Ters répondre à la question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, particules imaginaires?
Oh, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire aussi court-métrage, particule imaginaire. Hein, si particule, c'est une forme ramassée, courte, semble-t-il, en tout cas qui a certaines échelles et plus petite qu'une autre. Voilà. Et imaginaire, je pense que l'imaginaire, c'est c'est le nerf d'un réalisateur et peut-être d'un chercheur.
Les sélections que vous avez choisies de court-métrage, est-ce qu'elles abordent frontalement la science ou est-ce que c'est parfois détourné? Comment est-ce que vous avez choisi si un court-métrage parlait de science ou pas?
Alors en fait, on a travaillé sur un volume de 500 films avant de retenir les trois programmes. C'est impossible de faire un travail chronologique des relations du cinéma et des sciences. Ça serait au moins 17 programmes à montrer. Assez compliqué en plus. Non, l'idée qu'on a vue en voyant les films, trois idées sont apparues. Du coup, trois thématiques qu'on peut percevoir à travers chaque programme. Le premier, P1, est plus lié à la création et la vie et la mort, et la création et la récréation. L'idée étant d'être aussi un petit peu ludique et joueur avec tout ça. Le deuxième programme est vraiment lié aux particules. Sur la notion d'échelle, hein, du microcosme au macrocosme. Et le troisième est un programme se pose la question, qui est une question de cinéma, une question scientifique, des relations du temps, du déplacement et de l'espace. Et ça, c'est vraiment des questions, c'est une équation qui est autant scientifique que cinématographique.
Et est-ce que dans cette sélection, dans le choix, vous avez embarqué des scientifiques pour vous assister, pour discuter avec eux, pour échanger, ou c'était votre point de vue d'amateur de cinéma qui vous a guidé?
Alors, je suis clairement sur d'un point de vue cinématographique. Pour tout dire, étant sélectionneur labo, donc la compétition labo a une dizaine d'années, on a perçu pas mal de films qui utilisaient les formes utilisées par les scientifiques, qui réinterprétait les formes utilisées par les scientifiques. Et étrangement, étant attaché au pré-cinéma, c'est-à-dire à la première forme du cinéma qui sont des courts-métrages, il y a énormément de liens, il y a d'étranges liens entre cette forme qu'on trouve au labo aujourd'hui et le début du cinéma, sous l'angle de la recherche. Pas forcément la recherche qui ennuie, non, celle qui intrigue, celle qui essaye de dévoiler quelque chose, quoi. Et donc les deux, te dire qu'il y a une relation entre le début et maintenant, je trouve ça assez fascinant.
Est-ce que certains des courts-métrages qui sont proposés, on pourrait les qualifier de vulgarisation scientifique ? L'idée, c'est que ce serait vraiment d'amener des choses qui sont issues de la recherche ou de la science vers le spectateur qui serait plus néophyte ? Ou alors est-ce que c'est plus de l'exploration artistique pure ?
Les deux se mêlent. On a quelques documentaires dans la programmation qui sont des présentations de chercheurs. Mais pour moi, elles sont avant tout des présentations cinématographiques de chercheurs. En cela, c'est une vulgarisation, c'est-à-dire c'est un rapprochement, c'est de trouver une façon d'aborder, c'est-à-dire un langage commun. Alors effectivement, je pense que le cinéma permet un langage commun, pas que avec les sciences, mais particulièrement avec les sciences.
C'est un bon médium pour exprimer des choses qui sont complexes, parce que ça met l'image, le son.
Alors là, c'est une des interrogations qu'on a eues. Le cinéma essaye de figurer l'invisible. Bon. Le scientifique essaye de parler de l'invisible. Ces deux chemins se croisent, plus qu'ils ne se rassemblent, mais ils se croisent. Alors, du coup, je pense que c'est peut-être les nœuds qu'on a essayé de montrer. Voilà, ces moments de croisement entre le cinéma et les sciences.
C'était donc l'interview de Jérôme Terce, il fait partie depuis maintenant 10 ans du comité de sélection du Festival international du court-métrage. Et puis il est notamment membre du comité de sélection consacré au thème particulier de l'imaginaire. Est-ce que vous vous retrouvez, Caroline ou Yann, dans les propos de Jérôme ?
Alors, ce que je trouve très intéressant dans les propos de Jérôme Terce, c'est qu'il parle justement du lien entre pré-cinéma et ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certaines formes cinématographiques, notamment dans la sélection Labo. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, effectivement, dans le pré-cinéma, que ce soit du côté de Regnault ou de Gilles-Édouard, enfin de Marais, on retrouve justement des figures scientifiques qui s'intéressent au mouvement ou à cette recherche sur l'image en mouvement. Donc, Marais était physiologiste, par exemple. Et donc, avec le procédé, par exemple, de la chronophotographie, il y a cette étude, justement, sur les mouvements du corps, de l'homme, de la marche, donc avec une connaissance à la fois d'un chercheur dans le domaine de la physiologie, mais aussi sur la mise en image, en fait, de cette recherche sur le mouvement, donc qui se double, justement, d'une recherche sur la représentation du mouvement aussi. Et pour cette raison, je trouve que ce lien est très intéressant.
Moi, je partage l'idée que dans le cinéma, c'est assez difficile de représenter la science et la recherche. C'est assez rare de voir des films qui donnent une image à peu près fidèle de ce qu'est la science. Alors effectivement, on peut penser à des films comme Un homme d'exception, où on est vraiment... C'est la biographie d'un mathématicien qui s'appelle... Enfin, mathématicien économiste qui s'appelle Steve Nash. Je ne suis pas sûr du prénom, mais... Là, on colle au processus scientifique où on a quelqu'un qui fait sa recherche. Il y a même des illustrations de son travail de recherche qui sont très très bien faites dans ce film. Mais ça reste assez rare. En général, c'est plus on voit les fruits de la recherche, on voit la technologie, on voit donc la figure du chercheur qui est représentée de plein de formes différentes. Mais le processus scientifique lui-même est difficile à rendre.
Est-ce que c'est parce qu'il est abstrait ou alors parce qu'il s'étale dans un temps tellement long que c'est pas représentable en 180 minutes ou même moins 120 minutes?
Je dirais plutôt parce qu'il est abstrait, parce que la naissance des idées, ça se passe à l'intérieur du cerveau et que l'éclosion est difficile à rendre à l'écran.
Est-ce qu'on peut vivre par procuration, alors, les découvertes d'un scientifique en le regardant commencer à bouillonner ?
Peut-être, en commençant à le regarder faire n'importe quoi, éventuellement.
On peut donner des fragments, en tout cas.
Oui, on peut... Alors, c'est vrai que dans Un homme d'exception, c'est bien rendu, parce que le personnage, en plus, il est schizophrène. Donc, ce qui se passe dans son cerveau... ça peut être rendu à l'écran, enfin il y a un processus narratif qui est assez intéressant, mais ça reste ça reste pas évident, à mon avis, de représenter ce qui se passe dans la tête d'un chercheur au moment où il trouve.
Alors, je sais,
souvent le chercheur est représenté de façon assez négative quand même au cinéma. Ça peut être le méchant dans les films de science-fiction. Là, quand même, c'est quelqu'un qui est schizophrène dans Un homme d'exception. Donc, c'est jamais un homme normal, entre guillemets, enfin, sain.
Ou une femme.
À part dans Avatar, où on a une femme scientifique.
Oui, il y en a un que j'aime bien, c'est dans Jurassic Park. Il y a la figure du mathématicien avec Jeff Goldblum, qui est un mathématicien très sympathique. On sent qu'il est un peu déjanté. Donc c'est vrai que c'est souvent... souvent il est un peu perché. Mais moi, je trouve ça rigolo.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au court-métrage, aux séances, et puis si vous avez été voir Particules imaginaires. Donc, il y avait trois séances. Il y en avait une qui s'appelle Pi 1. Et il y avait un film qui est assez amusant, de mon point de vue, parce qu'il raconte justement l'histoire d'un scientifique. Enfin, c'est un témoignage. Le film s'appelle « La vie après la mort d'Henrietta Lacks » de Mathias Terry. Ça a été filmé en 2004. Et en fait, le cinéaste, c'est le frère de l'acteur principal qui joue son propre rôle et qui raconte comment il s'émerveille de voir des cellules se multiplier, comment chaque matin, il se lève, il retourne voir ses cellules, il prépare les expériences pour le soir. Et puis le lendemain matin, il retourne avec trépidant et puis parfois errant. C'est vraiment bouillant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ce film.
Pas celui-ci, en tout cas.
Ah non plus.
Je vous invite vraiment à aller le voir. Il est plutôt réussi. Et j'ai senti ce que Yann, tu essayais de décrire, je crois, ce côté... C'est abstrait, on ne comprend pas tout, mais en même temps, il y a quand même cette interface avec le ressenti de la personne qui véhicule pas mal de choses.
C'est vrai qu'en plus, c'est un processus qui peut être très lent. C'est-à-dire que quand on fait des mathématiques, la solution à un problème, elle n'arrive pas. Ce n'est pas un flash. Enfin, en tout cas, chez moi, ce n'est pas un flash. C'est quelque chose qui prend forme petit à petit. Donc, ça doit vraiment être difficile à rendre. Enfin, en tout cas, je ne préfère pas être à la place des cinéastes qui veulent rendre ce sentiment.
Oui, c'est tout à fait... Enfin, c'est propre au cinéma de fiction exclusivement, puisque le documentaire ne peut pas rendre compte de toutes ces différentes étapes, en l'occurrence.
Ou alors, c'est le travail du montage qui proposerait ça
Difficilement. Quand c'est très abstrait, je pense que c'est beaucoup, c'est plus du ressort de la fiction.
Mais par contre, pour la durée, là, on est capable en documentaire de la concrétiser.
Oui, on pourrait en documentaire faire un film qui durait des heures et des jours, des semaines même, pour expliquer un phénomène scientifique, bien sûr.
Ça s'appellerait la télé-réalité, et puis on filmerait des chercheurs.
Par exemple.
Ce serait amusant.
Je ne suis pas sûr que ce serait très rigolo. Un jour, le Pentagone qui finançait des recherches mathématiques. Puis un jour, il y a visite des généraux. Ils rentrent dans les salles où travaillaient les mathématiciens. Ils voient un mathématicien en fait qui était en train de dormir sur une table et qui disait qu'il travaillait. Donc filmer des mathématiciens en train de dormir et se dire qu'ils sont en train de travailler, je suis pas sûr que ça soit passionnant en télé-réalité.
Ça rendrait pas les choses très crédibles quand on dit que les chercheurs travaillent. Tu veux dire.
Exactement.
Le temps est court, malheureusement on ne va pas pouvoir discuter encore pendant des heures. Et alors peut-être pour finir cette discussion, on va vous poser une question à chacun d'entre vous. Et puis je vais la poser tout de suite. De votre point de vue, et si vous étiez enfermé sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmèneriez comme DVD pour passer le reste de votre vie en tant que scientifique? Chacun d'entre vous. Caroline peut-être d'abord?
Alors, moi, en tant que scientifique, mais je suis plutôt du côté des sciences humaines. Hein. Moi, je suis passionnée de documentaires. J'emmènerai plein de films documentaires que je reverrai avec plaisir et d'autres que j'irai découvrir aussi. Donc, certainement que j'emmènerai des films,
Si c'était un seul. Hein.
Un seul.
C'est
documentaire,
la difficulté de l'exercice.
Un seul documentaire. Je pense que je prendrais...
Un très long pour profiter du...
Oui, je reprendrai Vertov, je pense, parce qu'on ne se lasse jamais de regarder Vertov, L'homme à la caméra.
C'est quoi?
C'est un très beau film de 1929 sur la description d'une ville du matin au soir, mais qui est très rythmé et qui témoigne d'un grand travail de montage aussi, qui est très intéressant, donc cinématographiquement, mais aussi humainement, je dirais, puisqu'on apprend beaucoup de choses aussi sur la société de l'époque et puis sur aussi les intentions esthétiques et cinématographiques de son auteur.
Et toi, Yann, tu choisirais quoi?
Moi, je crois que je prendrais un film dans lequel il y a un peu de la science foutraque. Je prendrais Eternal Sunshine and the Spotless Mind, donc de Michel Gondry, avec Jim Carrey, et puis je crois que c'est Kate Winslet qui fait la femme. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui mêle les sciences avec, avec les sentiments. J'adore ce film.
Donc deux films qu'on pourrait emmener si on était sur une île déserte et puis qu'on était avec vous. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion. On va écouter un morceau de musique et puis on revient juste après avec la réponse à l'énigme. Tan 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 t
Toujours sur Radio Campus dans l'émission Science Alors, et donc vient de se produire un événement historique et j'ose le dire, un auditeur nous a appelé pour nous donner la réponse à l'énigme. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, donc vous avez une idée, donc vous avez trouvé l'année en question.
Ah bah c'est une hypothèse, mais je pense qu'avoir un faisceau d'éléments qui me permet d'affirmer qu'il doit s'agir de l'année 1964.
Bravo ! Bravo ! Alors, est-ce que vous avez retrouvé certains événements ? donc qui est dans ses archives.
Alors, bon, j'ai reconnu une chanson de Bob Dylan qui, au départ, qui m'a mis sur la piste des années 60.
Mm-hmm.
Et puis,
alors, quelle chanson, le titre?
Maurice Thorez, qui m'a, voilà, qui m'a conduit à penser à l'année 1964, ainsi qu'après le discours de Jean Moulin sur la le discours d'André Malraux sur la panthéonisation de Jean Moulin, qui ont fini de me convaincre que c'était bien cette année 1964.
Très bien. Et alors, vous avez reconnu la chanson de Bob Dylan?
Non, je ne la connais pas, par contre.
Alors, peut-être nos invités l'ont.
J'aurais dit « Times are changing ».
Voilà, exactement, « Times are changing », donc sur l'album éponyme, donc sorti en 1964. Et il y avait une autre musique à la fin, là, c'était facile, notre chanson. À la fin, toute fin de l'extrait.
C'était Barbara, je crois.
C'était Barbara, hein, c'était Göttingen, donc 1964, et effectivement, donc les funérailles de Maurice Thorez et la réception du prix Nobel par Martin Luther King, et puis ensuite le discours de Malraux. Eh bien, écoutez, je crois que vous êtes notre premier gagnant. Donc, si vous voulez boire une bière ou un vin chaud ou toute autre boisson, donc à 20h, rendez-vous devant le studio.
Eh bien, j'en suis très fier, je vous remercie. C'est difficile pour moi d'arriver à 20h devant le studio, mais écoutez, le cœur y est. En tout cas, je suis très content d'avoir participé à ce petit quiz historique.
Eh bien, merci beaucoup. Et je crois que tout de suite, nous allons passer à l'agenda scientifique.
Alors effectivement, l'agenda scientifique, nous sommes aujourd'hui fin février. Alors dans le mois qui vient, il y a différents événements que je vous invite à retrouver sur le site de l'émission, sciencealors.fr. Sur ce site, vous trouverez notamment sur la page agenda, le mercredi 13 mars 2013, ce sera François Vazeil à la MSH, à l'amphi 219, qui proposera une conférence qui s'intitule « L'épopée du boson de Higgs ». C'est dans le cadre de la semaine des jeunes chercheurs de la ville de Clermont-Ferrand. Donc la ville de Clermont-Ferrand qui soutient les jeunes chercheurs, récemment docteurs par exemple notamment. Un peu plus tard dans le mois, eh bien, vous aurez le 16 mars 2013, ce sont les journées portes ouvertes à l'université Blaise Pascal. Alors c'est l'occasion d'aller pousser les portes des laboratoires. Ah, Caroline ?
Oui, donc j'ai en l'occurrence les étudiants du master de l'université Blaise Pascal en action culturelle et gestion de projets du spectacle et les étudiants de l'atelier décor du service Université Culture qui vont présenter une installation vidéo autour d'objets scientifiques du département de physique qui sont mis en valeur justement à la faveur de cette installation au pôle physique de l'UFR Sciences et Technologies.
Sur le campus des CESO alors?
Oui, tout à fait, le 16 mars. Il y a une exposition ensuite qui se prolonge du 16 mars au 29 mars.
Super, alors donc en fait, même à l'université de Blaise Pascal, on croise les regards entre les différentes disciplines.
Tout à fait, on est complètement dans cette interdisciplinarité et l'enrichissement en fait des différents domaines.
Alors il y a cette proposition et puis si vous consultez le site de l'université, vous constaterez qu'il y a énormément de laboratoires qui ouvrent leurs portes et puis également des formations qui proposent des portes ouvertes pour découvrir un petit peu ce qu'est l'université et puis ce qu'on peut y faire. Un peu plus tard dans le mois, ce sera le 22 mars au musée Lecoq et c'est à l'occasion dans le cadre de la semaine des mathématiques. Alors ça, faut pas louper, hein, y a plein de choses qui vont se passer. C'est du 12 au 18 mars. Je dis pas que les mathématiques c'est la chose le chouette au monde, mais c'est relativement cool. Et donc pendant toute une semaine, un peu partout, il y a des événements. Et là, ça se passe au musée Lecoq. Ce sera de 19h30 à 23h. C'est une nocturne. Ça s'appelle Voyage sur la maths monde. Alors il y aura des conférences, des jeux et des ateliers découvertes pour tous les âges autour de la question des mathématiques. Et c'est gratuit, on me précise. Et ben voilà pour l'agenda, je vous invite à consulter donc le site internet sciencealors.fr pour écouter les émissions précédentes ou encore retrouver les bons plans et l'agenda que je vous ai proposé à l'antenne. L'émission d'aujourd'hui a été animée par Cécile, Claire et moi-même. À la sélection musicale, c'était Claire qui aujourd'hui nous a proposé un morceau de DJEJ qui s'appelle « Le temps est bon ». Le thème d'aujourd'hui, c'était « Science et cinéma ». On a écouté les interviews de Jérôme Terce et Roland Lehoucq. Au plateau, nous avions au micro Caroline Lardy et Yann Girard. Enfin, Laurent était à la réalisation. Je vous invite à retrouver et à réécouter l'émission en ligne. Et puis, on se retrouve le mois prochain, ce sera le 25 mars. Et le thème, ce sera le vin. Voilà. mais bien sûr sous le point de vue de la science. À suivre sur Radio Campus, Génération Manga.
Salut à tous, bonne soirée.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Éprouvette et velours côtelé.